Depuis des siècles, les affligés de toutes sortes demandent avec anxiété pourquoi la souffrance existe-t-elle? C'est l'une des grandes questions soulevées par les penseurs de toutes les époques. Si Dieu existe, s'il est bon et puissant, et si c'est lui qui a créé le monde, pourquoi y a-t-il tant de souffrance sur la terre? Nous sommes confrontés tous les jours à cette question quand les bulletins de nouvelles rapportent les malheurs qui frappent les gens de partout, de toute race, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Personne n'est à l'abri de la souffrance. Plusieurs d'entre vous la connaissez bien, car elle fait partie de votre vie. Il existe des causes à la souffrance des gens. La vérité sur cette question vous surprendra peut-être, mais elle vous apportera aussi de l'encouragement. Dans les émissions du Monde de demain, nous disons les choses telles qu'elles sont, en toute simplicité. Nous le ferons encore aujourd'hui, en expliquant comment la souffrance en est venue à faire partie du quotidien des êtres humains, à quoi elle sert, et les circonstances qui entoureront sa disparition, car un jour, la souffrance cessera. Restez à l'écoute. Salut à vous! Il importe vraiment de s'intéresser à la souffrance, car c'est pénible de voir les conditions dans lesquelles se trouvent des gens de partout dans le monde, sans savoir pourquoi il en est ainsi. La souffrance nous touche tous. Elle atteint souvent nos familles, nos amis et nous personnellement. Pourquoi ce monde est-il ce qu'il est? N'est-ce pas Dieu qui a tout créé? Ne serait-il pas, en quelque sorte, le responsable de la situation? Comment pourrait-il rester indifférent, sans rien faire, se contentant de regarder souffrir, à divers degrés, les nations, les enfants et chacun de nous? Ce n'est certainement pas la tournure des événements qu'il avait envisagée pour sa création. Manquerait-il de puissance? Serait-il incapable d'intervenir? Ou tout simplement désintéressé? Quand nous traversons des moments difficiles, nous sommes portés à remettre en cause notre foi et nos croyances. C'est pourquoi nous voulons en discuter aujourd'hui, en plus de mettre à votre disposition, en tant qu'outil de réflexion, notre littérature à ce sujet. Le monde actuel est aux prises avec la réalité de la souffrance. Certains d'entre vous ont peut-être été victimes de vols, d'agressions, d'assauts ou même de tentatives de meurtre. Plusieurs personnes croulent sous les dettes ou souffrent physiquement de maladies graves. D'autres sont dans l'angoisse ou encore sous l'emprise de stupéfiants, esclaves de leur dépendance aux drogues, à l'alcool, aux jeux, à la cigarette ou à des actes compulsifs qui détruisent leur vie. L'histoire du monde est pavée de récits de guerre, de génocides, de meurtres, de massacres et autres cruautés humaines qui surpassent même ce qui se fait dans le monde animal. De nos jours, le monde où nous vivons ne semble pas très accueillant. Tremblements de terre, famines, ouragans, typhons, épidémies, les forces naturelles échappent totalement à notre contrôle. Pourquoi en est-il ainsi? Que fait Dieu dans tout cela? Nous ne vivons définitivement pas, actuellement, dans un monde merveilleux. Quoi qu'il ait été créé par Dieu, il semble maintenant complètement livré aux mains de l'adversaire, Satan le diable. Lors d'une entrevue télévisée au début de l'année 2015, un comédien britannique bien connu et athée de conviction, M. Stephen Fry, fut interrogé sur ses croyances. L'animateur lui demanda ce qu'il dirait à Dieu, s'il découvrait qu'il existe vraiment et s'il avait l'occasion de le rencontrer. Il répondit à peu près en ces termes. « Je dirais, pourquoi le cancer chez les enfants? Comment osez-vous? Comment avez-vous pu créer un monde où il y a tant de misère que nous n'avons d'ailleurs pas mérité? C'est injuste. C'est de la méchanceté. Pourquoi devrais-je respecter un Dieu capricieux et mesquin qui a créé un monde plein d'injustice et de douleur? Voilà ce que je lui dirais. Peut-on répondre à M. Fry? Savons-nous d'où viennent les souffrances des humains? Ce qui les cause? De nos jours, l'existence de Dieu est continuellement mise en doute. Comme M. Fry, des gens influents issus de différentes couches de la société accusent directement le Créateur de l'univers de tous les maux. Mais ils ont tort. Curieusement, quand nous sommes au milieu de grandes difficultés, quand nous souffrons sans savoir pourquoi, sans connaître les causes de nos misères, c'est justement le fait que Dieu existe, le fait qu'il veut et qu'il peut nous aider, qui nous apporte le plus de réconfort et nous donne espoir. C'est justement ce que le Créateur nous révèle dans sa parole.
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « Les 10 commandements ». Cette brochure vous fera découvrir les véritables lois de Dieu. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant.
Pour examiner la question en profondeur, il faut remonter au tout début de l'histoire humaine, au temps où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il n'y avait alors aucune souffrance. Voyons ce qui est écrit dans Genèse 1 et 2. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Il y a beaucoup d'informations dans ces versets. D'abord, notons que Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il s'exprime ainsi parce que Dieu est une famille composée de deux personnages divins, Dieu le Père et Jésus-Christ, qui a procédé à la création selon la volonté de son Père. Notons ensuite que tous les animaux ont été créés selon leur espèce respective, ce qui n'est pas le cas pour les humains. Dieu a plutôt déclaré « Faisons l'homme à notre image ». Ainsi, contrairement aux animaux, l'homme fut créé selon l'espèce divine. Il a été fait à la ressemblance du Créateur lui-même. Dès le début, Dieu avait l'intention d'agrandir sa famille en créant les êtres humains. Il voulait que nous puissions un jour faire littéralement partie de sa famille. C'est pourquoi Dieu a donné aux humains une potentialité et des responsabilités qui reflètent les siennes, mais à une échelle beaucoup plus petite. Par exemple, les êtres humains reçurent l'ordre de dominer sur tous les animaux. Cette domination ressemble à celle de Dieu, puisqu'il est le gouverneur de l'univers. Puis, l'homme s'est vu confier le soin de cultiver et d'entretenir le jardin, de garder en bon état ce que Dieu avait mis en place. De la même manière, toute la création est soutenue par la parole et la puissance de Dieu. Enfin, l'humanité devait aussi se multiplier pour remplir la terre, c'est-à-dire bâtir une grande famille. C'est précisément ce que Dieu est en train de faire présentement à un autre niveau, au niveau spirituel. Toutefois, entre Dieu et l'homme, il y a une différence importante. La Bible nous révèle que Dieu est composé d'esprit. Il n'est pas physique. L'homme, par contre, a été créé en tant qu'être physique et mortel, ayant besoin de respirer et de manger pour rester vivant. Les humains ne sont donc pas des êtres immortels. Ils n'ont pas en eux la vie éternelle. Pour que les êtres humains puissent un jour devenir membres de la famille divine, en naissant littéralement dans cette famille, en tant qu'êtres spirituels, ils doivent d'abord développer une qualité qui s'acquiert avec le temps, le caractère divin qu'il nous faut développer progressivement. Ainsi donc, pour pouvoir naître un jour dans la famille divine et devenir de véritables enfants de Dieu, Adam et Ève devaient développer le caractère même de Dieu. Ils devaient apprendre à faire constamment les bons choix. Toujours choisir ce qui est juste chaque fois qu'ils avaient à prendre une décision. Dieu avait placé deux arbres dans le jardin d'Éden, lesquels représentaient deux voies de vie différentes. Genèse 2, à partir du verset 9, rapporte. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie représentait la possibilité, offerte à l'homme, d'obtenir le don de la vie éternelle. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il représentait la possibilité pour l'homme de rejeter l'autorité de son Créateur, en choisissant de décider lui-même ce qui est bien ou mal. Pour développer le caractère de Dieu, nous devons absolument être libres de choisir. Nous devons exercer cette liberté en faisant les bons choix. Quel fut le choix de nos premiers parents? La Bible rapporte leur triste histoire. Satan avait pris l'aspect d'un serpent pour séduire Ève et l'inciter à manger du fruit que Dieu leur avait donné ordre de ne pas prendre. Elle en mangea et en offrit à son mari, qui lui, notons-le, n'était pas séduit. Il devait choisir entre suivre les instructions de Dieu ou rejeter Dieu et opter pour la voie de Satan. Dans Genèse 3, verset 6, il est écrit, « Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui résulte de ce mauvais choix. Voilà. D'ailleurs, soyons honnêtes, n'avons-nous pas, nous aussi, au cours de notre vie, choisi à maintes reprises notre propre voie au lieu de suivre les instructions de Dieu? Bien sûr que nous l'avons fait. L'apôtre Paul déclare même dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché est toujours à l'origine de la misère, de la souffrance et finalement de la mort. Nous souffrons d'abord et avant tout à cause de nos péchés ou à cause de ceux des autres, parce que les lois de Dieu ont été transgressées. Résultat, dette, maladie transmise sexuellement, mariage brisé, découragement, réputation détruite, dépendance destructrice et autres. Mais nous souffrons également des effets produits par les péchés des autres. L'humanité, dans son ensemble, rejette Dieu et ses lois. Au lieu de maugréer contre un Dieu que nous ne connaissons pas vraiment, nous devons plutôt examiner nos propres actions et nous poser la question, est-ce que je m'applique à connaître et à mettre en pratique les lois divines qui consistent à aimer Dieu de tout cœur et à aimer notre prochain comme soi-même? Voilà comment éliminer le mal. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. On ne peut écarter Dieu de notre vie tout en désirant un bonheur qui n'est possible que si l'on vit selon ses instructions. Je le répète, la cause de toutes les souffrances est le péché. Dieu dit clairement, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Aussi longtemps que l'humanité continuera à se prendre pour Dieu et à vouloir décider de ce qui est bien ou mal, en rejetant le véritable Dieu, tous les humains que nous sommes athées aussi bien que croyants, continueront de souffrir dans un monde qui subit les conséquences naturelles de ses choix. Heureusement, Dieu ne nous a pas abandonnés à nos souffrances. Comme nous le verrons, il révèle non seulement la cause de nos souffrances, mais aussi le moyen d'y mettre fin. La brochure que nous offrons aujourd'hui révèle la base du véritable christianisme.
Pour en savoir davantage sur l'importance d'obéir aux commandements de Dieu, demandez notre brochure gratuite « Les 10 commandements ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Dieu n'a pas abandonné les humains à leur triste sort. La vérité est tout autre et tellement encourageante. Notre Créateur aurait pu rester à distance. Il aurait pu se retirer complètement de ce monde que nous avons taillé à notre image. Un monde qui continue de lui dire effrontément qu'il n'est pas le bienvenu. Au contraire, il a choisi de souffrir avec nous, dans ce monde. Voyons ce que déclare à ce sujet Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » L'apôtre Jean nous apprend donc que notre Créateur, bon et parfait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a choisi de devenir chair et sang comme nous. Il n'était pas tenu de le faire. Il aurait pu changer d'avis à tout moment. Il n'était coupable de rien. Contrairement à nous, vous et moi, il n'a jamais péché, pas une seule fois. Il n'a jamais déshonoré ses parents. Il n'a jamais menti, ni triché. Il n'a jamais détesté ses frères. Il ne s'est jamais permis de convoiter. Jusqu'à ce jour, il est le seul sur terre à avoir été continuellement parfait, miséricordieux, respectueux de la loi et fidèle envers Dieu à chaque instant de sa vie. Et ce que nous lui avons réservé en retour, c'est la punition même que nous nous étions méritée, pas lui. Il a été ridiculisé, torturé sans merci, crucifié, non à cause de ses péchés, mais à cause des nôtres. Il a porté pleinement le poids des souffrances que nous méritons. Il nous a ainsi ouvert la porte, donnant accès à la vie éternelle. Nous ne pouvons absolument pas mériter cette vie éternelle, car c'est un don de Dieu. La vaste majorité de ceux qui se disent chrétiens ne le comprennent malheureusement pas. Le Christ a souffert pour nous. Il a participé à nos souffrances en payant à notre place la pénalité que nous avons encourue, c'est-à-dire la mort, nous délivrant ainsi de nos péchés. Il fut ensuite ressuscité. C'est pourquoi il peut maintenant vivre en tous ceux qui acceptent de se repentir et de vivre selon ses enseignements. Par son esprit en eux, il leur donnera la force de cheminer vers la vie éternelle, en les aidant à édifier le caractère divin, dont lui-même faisait preuve lorsqu'il était humain. L'apôtre Paul décrit magnifiquement ce processus dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il s'agit en fait de la foi du Fils de Dieu. C'est sa foi vivante qui habite et grandit en ceux qui ont choisi de rejeter le péché pour se tourner vers leur Sauveur. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Les Écritures sont claires à ce sujet. La venue sur terre de Jésus-Christ n'est que le commencement des efforts qu'il déploie en faveur des humains. Ceux qui se repentent et qui se tournent vers lui, ceux qui lui consacrent maintenant entièrement leur vie, seront glorifiés et recevront la vie divine quand il reviendra pour établir le royaume de Dieu. Ces humains deviendront alors des êtres divins, exactement comme lui. Ainsi, après avoir accepté de souffrir avec lui dans le monde actuel, ces êtres devenus divins et glorieux auront l'honneur de régner avec le Christ lui-même dans le monde de demain. Mais ils ne régneront pas pour eux-mêmes. Ils auront le plaisir d'aider le Christ à proclamer la vérité aux gens de toutes les nations, partout sur terre. Puis, après 1000 ans de règne, ils auront le bonheur d'enseigner tous ceux qui, dans le passé, auront vécu et sont morts sans jamais avoir vraiment connu la vérité. Ces gens seront alors ressuscités. Ils seront enseignés dans la vérité et ils pourront, à leur tour, choisir en toute connaissance de cause de s'allier à Dieu. En ce temps-là, tous connaîtront la cause réelle des souffrances humaines et pourront y mettre fin de façon permanente. Le diable, l'adversaire qui agit en arrière-scène, sera écarté pour toujours. Tous les êtres humains ayant choisi de se repentir auront été rachetés, et la famille de Dieu pourra travailler ensemble dans l'univers tout entier. L'apôtre Jean en parle après avoir vu, en vision, l'accomplissement final du plan de Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 3 et suivant, il rapporte « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Trop souvent, nous sommes portés à blâmer Dieu pour les souffrances de ce monde. Or, c'est justement parce que nous rejetons Dieu que nous souffrons. Le fait de connaître la vérité à ce sujet nous donne espoir et nous apporte le grand réconfort dont nous avons besoin. Voyons ce que l'apôtre Paul a déclaré dans Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Nos épreuves actuelles sont certainement difficiles. Mais pour tous ceux d'entre nous qui se tournent vers Dieu, vers notre Père qui nous aime profondément, nos souffrances ne sont pas vaines. Elles ont un but et nous ne sommes pas seuls pour les supporter. Ces douleurs feront bientôt place à une réalité formidable qui, pour l'instant, dépasse notre entendement. C'est avec assurance que nous attendons le monde de demain. Nos souffrances se transformeront en joie. Tout commence par la croyance en un Dieu réel qui accomplira ces choses. Il vous appartient de décider de vous servir ou non des outils que nous vous offrons pour comprendre et connaître de plus en plus le grand Dieu qui veut notre bonheur. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Les 10 commandements ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet.
Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Selon certaines dénominations chrétiennes, le Christ aurait supprimé la loi de son Père. Cette idée est-elle vraiment conforme aux Écritures? Le Christ a-t-il aboli la loi? Certains utilisent Matthieu 5, 18 pour tenter de soutenir cette idée. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Le Christ a bien sûr toujours obéi parfaitement aux exigences de la loi. Or, à partir de là, certains prétendent que Jésus aurait ainsi observé la loi à notre place et que, par conséquent, nous n'aurions plus à le faire. Dans le même but, d'autres utilisent Romains 10, 4 qui dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Dans ce cas, l'argument avancé est le suivant. Si le Christ est la fin de la loi, alors la loi est obsolète et il n'est plus nécessaire de s'y conformer. Toutefois, l'expression « la fin de la loi » ne veut aucunement dire son abolition ou l'arrêt de sa validité. Le mot « fin » vient du mot grec « telos », qui signifie plutôt « le résultat de quelque chose ». En d'autres termes, Paul dit que le caractère du Christ, son exemple, est ce qui résulte de son obéissance à la loi de Dieu. C'est la justice. Loin de dire que la loi est abolie, ces Écritures démontrent que celui qui s'applique à mettre en pratique les 10 commandements, dans sa vie, apprend à penser comme Dieu et à vivre selon sa justice. La vie de Jésus doit nous servir d'exemple à suivre, comme l'apôtre Paul l'a bien compris en écrivant « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Notez aussi l'avertissement que donne l'apôtre Jean, 60 ans après la mort et la résurrection du Christ. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons imiter le Christ et appliquer les règles de vie qu'il a suivies. C'est ce que Paul enseigna aux Corinthiens, 24 ans après la mort et la résurrection de Jésus. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Si Jésus a invalidé la loi, il n'a manifestement pas transmis cette information à Jean et à Paul. L'Écriture est claire. Jésus n'a pas aboli la loi de Dieu. Il a vécu conformément à cette loi, nous donnant ainsi l'exemple à suivre. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules « Le monde de demain répond », visitez notre site internet mondedemain.org ou encore « Le monde demain répond » sur YouTube.
Sur notre site internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain ». Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.